affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
À l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Vous nous écoutez nécessairement par l'intermédiaire d'un ordinateur, d'une tablette ou même peut-être d'un téléphone, puisque Canal Academy est une web radio, comme on dit. De la sorte, vous participez, sans même parfois en avoir conscience, tant la chose est devenue naturelle, à ce que l'on appelle la révolution numérique, qui avec l'essor d'Internet a bouleversé nos façons de communiquer, mais aussi de nous instruire, de nous informer, et qui va être le sujet de notre émission de ce jour. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et co-auteur avec Olivier Houdet, Pierre Léna et Serge Tisseron d'un avis de l'Académie des sciences consacré à l'enfant et les écrans. Jean-François Bach, bonjour.
Bonjour.
Telle est effectivement certainement la vraie question. En effet, jusqu'ici, les écrans qui peu à peu se sont introduits dans notre quotidien ont pénétré une société qui a connu le monde d'avant, une société dans laquelle les utilisateurs d'écran étaient également familiers des supports d'autrefois, mais toujours vivants, le livre et les journaux en papier. En revanche, les enfants, eux, comme l'ont bien perçu les Américains, qui leur donnent le nom de « digital natives », sont nés avec ces technologies. Ils vont certainement les modeler, leur trouver de nouveaux usages, mais en retour, ils seront également transformés. Le seront-ils en bien ou en mal? Telle est probablement la question, telle est la question en tout cas à laquelle cet avis de l'Académie des sciences répond. Faut-il donc s'inquiéter de cela, voire entrer en résistance contre cette nouvelle culture, comme par exemple Alain Finkielkraut, ou au contraire nous réjouir, comme le fait Michel Serres? Et en tant que parents, de façon beaucoup plus simple et pratique, comment accompagner nos enfants dans ce nouveau monde, peu ou prou numérique? Telles sont les questions que nous allons aborder au fil de cette émission. Mais avant tout, peut-être faut-il cerner le sujet, le mettre à distance, évaluer la chose, ne pas céder aux passions. Et c'est pourquoi ma première question va poser sur ce terme même que pourtant j'ai utilisé par mimétisme, celui de révolution numérique. Est-ce bien le terme approprié?
Oui, bien sûr, il y a une révolution numérique. Et comme vous l'avez très bien dit, nous la vivons tous les jours, nous n'y pensons même plus. Qui songerait aujourd'hui, citoyen actif, étudiant ou élève en collège ou au lycée, ou même dans le primaire, qui songerait à ne se passer complètement d'un ordinateur ou de toutes les formes d'écran dont on peut parler? Cela est irréversible. Cela va évoluer, mais c'est irréversible. On ne reviendra plus à une période sans écran, au-delà même de l'écran de télévision qui a été le premier écran qui est apparu dans notre société. Alors cette révolution, elle pose bien sûr des tas de questions d'ordre très divers. Il y a même des problèmes qui sont liés plus généralement à l'informatique. Il faut différencier d'ailleurs le numérique et l'informatique. Ce sont des sujets un peu différents. On pourrait éventuellement en parler. Mais prenons un sujet qui n'a pas de rapport direct avec notre discussion de ce matin, mais qui peut situer l'importance des problèmes, c'est la sécurité informatique. Nous avons eu à l'Académie des sciences il y a quelques jours, et cette séance sera peut-être regardée sur le site de l'Académie des sciences, une séance sur la sécurité en informatique. C'est un problème immense, très compliqué. On y voit qu'on peut tracer pratiquement chaque individu dans nos sociétés, heure par heure, quand ce n'est pas minute par minute, en tout cas dans toutes ces activités. C'est une révolution qui, sans doute, n'est pas parfaitement satisfaisante dans le cas particulier, même si elle peut avoir des applications intéressantes dans les difficultés que nous traversons actuellement avec les problèmes de sûreté nationale. Donc, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas d'exploiter des enfants aux écrans. Enfin, elle peut l'être posée, on peut poser la question comme ça, mais la question n'est pas de savoir si il est possible ou non de l'empêcher ou de au contraire de le développer. C'est là, et ça, c'est irréversible. Et donc, il faut plutôt parler de comment adapter l'utilisation des écrans par les enfants plutôt que de remettre en question cette utilisation qui, de toute façon, a lieu et aura lieu dans le futur de façon de plus en plus claire.
Si donc vous validez le terme de révolution, par quoi se caractérise cette révolution ? Par quel bouleversement ? Une révolution change l'ordre des choses à travers le prisme des enfants ? Je pense à la façon de s'instruire, d'apprendre, de se former à la vie. Quels sont les bouleversements les plus importants qu'on identifie ?
Le premier bouleversement, c'est que c'est un accès à l'information, c'est un accès à l'interaction sociale, c'est un accès, dans certains cas, à l'instruction qui a beaucoup changé la vie des enfants. Nous pourrons en dire quelques mots. Ça a été, dans beaucoup de domaines, un progrès très important. Mais, comme toujours, il y a eu ou il y a encore des excès. Et c'est de ça qu'il faut aussi, c'est à ça qu'il faut également réfléchir, parce que ces excès peuvent avoir des conséquences graves, en particulier sur le temps qui passe les enfants et sur le fait qu'ils n'ont plus le temps de s'adonner à des activités qui étaient le centre de ce que faisaient les enfants autrefois et qui étaient très utiles. Je pense à la lecture, je pense au sport, je pense à beaucoup d'autres choses. Donc c'est vrai que, et c'est ça peut-être un des risques importants, c'est que cette activité d'interaction avec les écrans prenne trop le pas sur d'autres activités qui restent importantes. Alors ça fait partie de la révolution et ça pose toute la question de savoir contrôler cette évolution ou révolution, comme on veut. Il faut pouvoir réfléchir à tout ce qui est de bien et de moins bien dans tout cela pour pouvoir s'adapter, que les parents, les éducateurs sachent quoi faire, les enfants eux-mêmes étant laissés parfois peut-être un peu trop libres, eux-mêmes directement, tout seuls face à l'écran, mais également au sein des groupes qu'ils forment avec leurs camarades, leurs amis. Et là aussi, il y a une réflexion importante.
L'aspect un petit peu inquiétant pour partir de là, car ça vous permettra d'y répondre, c'est que ces écrans arrivent dans la vie d'enfant, et je ne sais pas d'ailleurs si on a le recul déjà nécessaire pour en voir les effets, peut-être, parce que finalement cette révolution a déjà une vingtaine d'années, mais elle est encore en déroulement, c'est que ces écrans arrivent dans la vie d'enfant dont le cerveau, finalement, n'est pas encore totalement formé, construit, je ne sais pas quel est le terme adéquat. En tout cas, les enfants eux-mêmes sont en train de se construire et leur cerveau n'est pas définitivement formé. Quel est l'impact ? Est-ce qu'on peut déjà le mesurer ?
Alors, ça, c'est une vraie question que nous avons discutée dans le rapport que nous avons rédigé, l'avis de l'académie que nous avons préparé sur ce thème. Ça va très loin, parce que maintenant, même les tout jeunes enfants, les bébés, comme on dit, simplement, alors le terme de bébé, c'est un peu, la définition n'est pas très précise, enfin, disons des 0 à 2 ans, commencent maintenant à tapoter sur les tablettes. Et on n'a aucun recul. Comment voulez-vous qu'on réponde à cette question de façon scientifique, précise ? Alors, nous avons été aidés dans ce travail que nous avons fait par un grand psychologue français, Olivier Houdet, qui est un psychologue scientifique qui travaille sur ce sujet et qui est arrivé à la conclusion qu'il y avait un effet bénéfique. Bon, mais on n'a pas le recul. Eh bien, de façon générale, ce qui est bénéfique dans tout cela, c'est le fait que l'utilisation des écrans, des tablettes, ou d'autres choses, enfin c'est ça surtout les questions aujourd'hui pour les plus jeunes, développent certaines performances du cerveau de façon intéressante pour pouvoir se délier l'esprit en quelque sorte, pour parler de façon générale, et répondre à certaines situations. Alors maintenant, comment se situe l'intervention de ces tablettes dans le développement du cerveau qui, comme vous le disiez très justement, est encore en train de se faire dans les deux premières années, même un peu plus tard. Bon, après, c'est un peu autre chose. Après, ce n'est plus le développement du cerveau, c'est plutôt le développement de la pensée, de la culture, etc. Les problèmes ne sont plus les mêmes à 6 ou 7 ans que dans les deux premières années. Bon, on n'a pas le recul, par définition, parce que si vous regardez depuis quand un nombre significatif de très jeunes enfants utilisent ces tablettes, bon, on ne monte pas très longtemps. Non. Alors, si on veut regarder les conséquences à 10 ou 20 ans, alors là, c'est absolument impossible. Donc, cela veut dire que cette analyse des effets favorables ou défavorables, pour prendre ce sujet précis, des tablettes sur les très jeunes enfants, elle doit être faite en continu. Il faut l'étudier régulièrement, chaque année, pour pouvoir, au fur et à mesure du recul qu'on va acquérir, et des études qui sont faites sur le sujet, qui commencent tout juste, il y en a quelques-unes. Nous avons pris la peine de regarder la littérature sur le sujet. C'est une littérature de qualité très variable. Il y a des choses extrêmement sérieuses et d'autres qui le sont moins. Ce n'est pas forcément celles qui sont le plus sérieuses qui sont le plus souvent citées. Mais bon, c'est comme ça en science et en général sur tout ce qui concerne les rapports entre la science et la société. Nous le savons. Il faut donc suivre ce sujet avec une attention particulière. C'est vrai. Bon, là aussi, dans la pratique, les choses se font comme ça. De plus en plus de très jeunes enfants sont exposés à ces tablettes. Qu'on le veuille ou pas, et ce n'est pas les recommandations de l'Académie des sciences, du ministère de l'Éducation nationale, qui je sache, qui va changer les choses. Les parents le font. Mais c'est vrai aussi que les parents demandent des avis parce qu'ils sont préoccupés. Et la demande des parents doit être prise en considération, pas seulement des parents, mais également des éducateurs. Ça, c'est un vrai sujet aussi.
Ce qui est évidemment un petit peu troublant, et on s'en rend compte à la lecture de votre avis, c'est qu'on a l'impression, on parle généralement de ce sujet de façon un petit peu globalisante. La révolution numérique, les écrans en général, et dans le rapport, vous prenez bien soin de distinguer ces différents écrans, celui du téléphone, celui de la tablette, de la télévision, de l'ordinateur, et des multiples usages qu'on peut en faire. Tant et si bien qu'on croit partir d'un sujet unique, et finalement on se retrouve avec une multitude d'outils et d'usages extrêmement différenciés. Quels sont les points clés, si l'on dressait une échelle entre ce qui est bénéfique ou plus dangereux ou moins dangereux, qu'est-ce que vous mettez en tête des risques parmi les écrans ?
Alors, d'abord, une notion sur laquelle on a beaucoup insisté, c'est que les problèmes ne sont pas les mêmes, effectivement, selon les instruments utilisés, mais également selon l'âge des enfants. Et les problèmes ne sont pas du tout les mêmes à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans. Donc il faut considérer ces différentes situations en fonction de l'âge des enfants. Bon, ça c'est une première notion. Alors après, nous avons bien sûr passé en revue les différents types d'écrans et les différents types d'utilisation. Parce que finalement, si on prend les tablettes ou les ordinateurs, bon, ce sont des instruments, des outils, mais ce qui est important, ce n'est pas tellement l'outil, c'est ce à quoi il donne accès. Et il n'y a pas beaucoup de rapport entre l'utilisation d'une tablette pour faire des calculs simples, comme calculette, ou après comme outil pour faire des jeux. Et les jeux, il faut qu'on en parle, c'est un vrai sujet en soi qui dépasse les tablettes, parce qu'il y a les consoles, etc. C'est encore un autre sujet lorsqu'on utilise ces tablettes simplement pour avoir accès à Internet. Et ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on regarde sur Internet. Après, vous avez les réseaux sociaux. C'est encore un autre sujet avec tout ce qu'on peut imaginer. Et actuellement, on en parle beaucoup et à juste titre. Vous voyez, alors c'est très divers. Et chaque outil et chaque utilisation de chaque outil, si je peux dire, pose ses propres problèmes. Alors, il y a un outil particulier qui est le plus ancien et qui, lui, mérite quand même qu'on s'arrête une seconde, même si les données là sur ce sujet sont anciennes et assez bien établies, c'est la télévision. La télévision, comme beaucoup d'autres choses, c'est le meilleur et le pire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes sur la télévision. des émissions éducatives, des émissions distrayantes, des émissions culturelles adaptées aux enfants et qui sont intéressantes. Le problème de la télévision, c'est que c'est passif. Et par exemple, nous avons beaucoup dit, nous ne sommes pas les premiers à l'avoir dit, qu'il était une pratique agréable pour certains parents, pour avoir un peu de tranquillité, de mettre des enfants, donc, y compris des jeunes enfants, devant une télévision pendant une heure ou deux, comme ça ils sont... Ça, à petite dose, c'est tout à fait acceptable. Il faut se méfier parce que c'est une passivité de l'enfant devant l'écran qui n'est pas souhaitable, en tout cas pas lorsqu'on le fait sur de très longues durées. Donc il faut se méfier de ce genre de choses. C'est l'intérêt des autres types d'écrans qui sont interactifs et qui sont donc qui peuvent stimuler l'activité cérébrale beaucoup plus que le fait la télévision.
Finalement donc, la révolution prendra un tour plus agréable, utile et bénéfique ces dernières années.
Oui, je pense que cette interactivité, elle est utile. Alors, la façon dont nous avons abordé le problème a été multidisciplinaire, parce que c'est un problème très complexe qui fait participer beaucoup de disciplines. Alors, pour en citer quelques-unes. D'abord, la neurobiologie. Vous aviez allusion quand vous parliez de développement cérébral du jeune enfant. Bon, le développement cérébral du jeune enfant, c'est de la neurobiologie. Bon, ce n'est pas... de la physiologie à proprement parler, ni de la psychologie. Ça peut, bon, ces disciplines peuvent intervenir, mais c'est de la neurobiologie. Il y a des spécialistes de neurobiologie qui travaillent souvent de façon comparative chez l'homme et chez l'animal, chez les primates ou même chez d'autres espèces. Et ça, c'est un sujet énorme, qui est extrêmement intéressant et très compliqué. Très compliqué parce qu'il pose, par exemple, entre autres, toute la question de savoir quel est l'effet des différentes modalités d'exposition des très jeunes enfants à différents stimulus pour le développement cérébral, quelles seront les conséquences pour le futur adulte des deux premières années de la vie, entre guillemets, intellectuelle de ces très jeunes enfants. Donc, c'est un énorme sujet, et ça, nous avons donc consulté des neurobiologistes, et nous en avons d'éminents à l'Académie des sciences, que ils sont venus parler devant le groupe de travail. Après, il y a les psychologues, bon, les psychiatres, c'est pas tout à fait pareil, hein. Il y a des psychiatres qui font de la psychologie ou de la psychothérapie, l'inverse n'est pas vrai. Les psychologues et les psychiatres ont un mot important à dire, mais ce ne sont pas les seuls. Après, vous avez les médecins. Et les médecins sont importants. Moi, je trouve que je suis d'origine médicale. Je suis un des médecins pendant très nombreuses années de ma vie. Je suis toujours docteur en médecine. Les médecins sont importants parce que beaucoup des conséquences néfastes peuvent faire intervenir des problèmes médicaux. À différents titres. Par exemple, il y a des enfants, là on est au bord de la médecine et de la psychiatrie, mais enfin la psychiatrie fait partie de la médecine. Vous avez des enfants qui peuvent avoir des prédispositions psychiatriques qui ne sont pas vraiment anormales, mais qui sont, vous savez que beaucoup de conditions psychiatriques sont à la limite entre la normale et la pathologie, il y a un continuum. Et certaines expositions à certaines situations peuvent révéler des états de prédisposition qui, normalement, autrement, ne se seraient pas révélés.
Par exemple ?
Il y a des comportements de troubles de l'attention, des comportements même dans des suites de maladies psychiatriques comme l'autisme, qui sont des maladies graves, mais dont il existe des formes mineures. Vous voyez. Donc il y a toute une série de choses. Mais alors, il y a un problème qui est très important, qui rejoint d'ailleurs le problème de l'attention et de la concentration, qui est le problème du sommeil. Et ça, c'est un problème médical. Nous avons écouté des spécialistes, des médecins, des pédiatres spécialistes du sommeil. Et combien de temps un enfant de tel ou tel âge doit-il dormir chaque jour ? Quelles sont les conséquences du manque de sommeil sur ses activités scolaires ou autres ? Et cela, c'est vraiment un problème alors qu'on retrouve quotidiennement quand on s'intéresse à ce problème. Parce que c'est vrai, c'est un des chose sur laquelle nous avons émis des critiques ou des, nous avons posé des questions très, très précises, il faut veiller à ce que l'enfant garde les heures de sommeil qui lui sont nécessaires, au risque de perdre sa performance, de dormir le lendemain matin à l'école, ou de ne plus pouvoir se concentrer. Et ça, c'est un problème médical, et qui est un problème compliqué. Alors, il est compliqué parce que ce n'est pas les mêmes nombres d'heures selon les enfants, selon l'âge, etc. Et là, nous sommes devant une des questions qui se posent. Vous voyez, alors ça, c'est, je parlais donc des médecins, mais il y a également les éducateurs. Alors, il se trouve que dans le groupe de travail, nous avions plusieurs personnes qui s'intéressaient depuis longtemps au problème d'éducation. Pierre Léna, qui est membre de l'Académie, est un des, sinon le plus grand spécialiste de l'enseignement des sciences dans notre pays et très connu au niveau international. Sa participation a été très utile. Bon, moi-même, plus modestement, j'ai été responsable de la réforme des programmes de sciences au collège, donc il y a quelques années, donc je connais bien le sujet, au-delà des fonctions de secrétaire perpétuel qui m'ont amené à animer les réunions de ce groupe. Mais donc les problèmes d'éducation sont très importants parce que ça va au-delà d'ailleurs de simplement d'avoir la connaissance des enfants, des élèves. Ça pose également la question de l'utilisation des écrans pour l'enseignement et pas seulement l'enseignement des sciences. Parce que quand on parle...
C'est une des choses qui fait débat. Et qui ulcérait, par exemple, Alain Finkielkraut, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, oui, mais alors là, je pense que, encore une fois, il faut distinguer ce qui est l'écran comme utilisation en soi. Par exemple, je pense aux jeux vidéo. Alors là, c'est l'enfant face à l'écran, tout seul, sans rien. Et l'écran, simplement, disons, courroie de transmission entre les connaissances et l'enfant. Si un enfant utilise les écrans pour rechercher sur Internet telle ou telle information sur un sujet, disons, X ou Y, qu'il soit culturel, sportif ou autre, peu importe. C'est simplement une façon de se renseigner. Autrefois, les enfants lisaient des livres. Peut-être qu'ils ne le font plus assez. Et c'est vrai que pour ce qui est des livres, moi, je pense personnellement qu'il est regrettable que les enfants lisent moins qu'autrefois. Alors, ce n'est pas totalement vrai.
Est-ce qu'ils lisent moins, d'ailleurs ?
Alors, justement, ce que j'allais vous dire, ce n'est pas totalement vrai. Moi, je regarde autour de moi, il y a quand même beaucoup d'enfants qui lisent. Alors, il y en a certains qui ne lisent plus. Mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu des enfants qui ne lisaient pas. Mais peut-être qu'il y en a un peu plus aujourd'hui. Je ne connais pas les statistiques. Et les livres, bon...
Ils lisent peut-être plus ce qu'ils veulent, en fait, non ?
Oui, aussi. D'abord, on leur impose. Les écoles leur demandent de lire des livres de tel ou tel auteur. Ils le font. Pas toujours, mais ils le font souvent. Et puis, les livres donc par Internet, les e-books, etc., c'est un problème. Ça va se développer et ça le fait de façon très rapide. Je pense que là, il y a un avenir incontestable. Quand on regarde les liseuses électroniques, c'est vrai que... quand on voit autour de soi les gens qu'ils utilisent, leur utilisation n'est pas très éloignée de celle des livres classiques, même si ça choque certaines personnes qui ont toujours vécu au milieu des livres papier, et qui le voient mal. Mais même pour regarder les journaux, simplement.
Mais ça, objectivement, enfin, j'espère ne choquer personne. Moi aussi, j'aime les livres papier. Je suis pas une génération qui a appris avec des livres papier. J'aime même leur odeur, pour tout dire.
Oui,
mais,
absolument.
Mais je suis forcé de reconnaître que ça tient du fétichisme.
Oui, c'est un peu... Ben, prenons l'exemple.
L'œuvre ne se résume pas à son support. Non. Aujourd'hui, on peut parfaitement lire des classiques sur une liseuse. On y a même accès à des prix défiant toute concurrence. Où est la différence ?
Absolument. D'ailleurs, parlant du prix, moi, je remarque de façon un peu attristée que les livres achetés sur Internet, les livres e-book, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, ne sont pas tellement moins chers que les vrais livres, d'ailleurs. C'est un problème. Mais ça, c'est autre chose. Mais prenons les journaux. Les journaux, c'est intéressant, les journaux. Quotidien. Là, je quitte un peu les enfants, parce que les journaux, bon, les enfants ne lisent pas beaucoup de journaux. Enfin, ils lisent certains journaux, mais enfin, pas beaucoup. Mais prenons les adultes et les journaux. Bon, la plupart des gens d'un certain âge vous diront, rien ne remplace d'avoir le journal papier devant soi, et de l'ouvrir, de le consulter chez soi, dans le train, dans un avion, tout ce que... Mais moi, je connais assez bien ce milieu-là. Les gens qui travaillent dans la presse vous disent que la montée de la consultation électronique des journaux par rapport à la lecture classique sur papier est d'abord impressionnante et probablement irréversible. Les grands journaux savent très bien que dans quelques années, si ce n'est pas déjà le cas pour certains journaux, le nombre de lecteurs sur Internet sera plus grand que le nombre de lecteurs papier. Et dans si vous considérez les classes d'âge de moins de 40 ans, c'est encore plus vrai, évidemment. Alors bien sûr que les gens de 60 ans, 70 ans préfèrent consulter leur journal. Bon. Il y a beaucoup d'avantages, c'est plus facile, c'est plus rapide. D'abord, l'information arrive plus vite, on l'a immédiatement, etc. Enfin, il y a toute une série de choses et les gens le font comme ça. Alors, ça pose d'ailleurs un autre problème qui n'a... Alors, je reviens au prix, parce que c'est un problème, le prix. Parce que le prix, c'est également... Ça conditionne l'accessibilité des documents aux différentes personnes. Eh bien, il y a une notion qui s'est établie et qui est un vrai problème, c'est que ce qui était sur Internet doit être gratuit, dans l'esprit notamment des jeunes. Et ça... C'est une idée sympathique, mais qui n'est pas tenable à terme. Parce que si vous arrivez, imaginons un cas d'école, où 90 ou presque 100% des lecteurs de grands quotidiens consulteront, liront ces journaux par Internet. Ben, il faut bien que quelqu'un paye les salaires des journalistes, paye la composition des journaux. Donc il faut bien que quelqu'un paye quelque part. Donc il faudra... que quelqu'un paye quand même quelque part. Et là, et à un moment donné, soit sous forme d'abonnement. Alors aujourd'hui, les journaux ont, ça varie beaucoup selon les journaux, ont des versions Internet qui sont assez proches des versions abonnées. D'autres, au contraire, assez éloignées. Il y a très peu de choses dans la version Internet. C'est une évolution importante, mais de toute façon, on ne peut pas y couper. C'est comme ça. Il faut la gérer, mais c'est comme pour ce qu'on disait pour l'enfant et les écrans, c'est une évolution irréversible.
Sur la question du prix, si vous me permettez cette réflexion, lorsque quelque chose est gratuit sur Internet, ça signifie généralement que le produit, c'est le lecteur qui est vendu à des annonceurs. C'est ça le modèle.
Oui,
mais c'est celui de la publicité dans les journaux aussi.
Absolument, donc, absolument. D'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la publicité, mais je vois qu'il y a un glissement de plus en plus rapide de la publicité vers les médias Internet par rapport aux médias classiques à la télévision, à la radio. Donc c'est vrai. Donc il y a cette face, il y a cela. Donc est-ce qu'on peut imaginer que la publicité, par exemple, sur les versions Internet des journaux compenseront le fait que les choses sont presque gratuites? C'est pas sûr parce que, comme vous le savez, l'abaissement de la publicité est général pour tous les médias, type quotidien ou magazine, et ça pose un problème. Enfin, on est un peu loin de notre sujet.
On est loin du sujet, mais c'est certain qu'on est aussi loin de la presse, où selon le modèle Boeuf-Mairie, le journal appartenait à ses lecteurs. Hein.
Voilà,
très loin.
C'est un problème qui se pose. Je connais particulièrement bien Le Monde, pour avoir siégé pendant longtemps dans certaines commissions qui suivaient justement, qui préservaient l'indépendance du journal. Donc, je connais bien la question. Oui.
Pour revenir aux enfants.
Oui.
Vous avez parlé des différents âges. Est-ce qu'il est possible, en simplifiant l'extrême, je m'en excuse par avance, de nous dresser une typologie des enjeux selon les âges? Je crois que dans le rapport, on a de 0 à 2 ans, de 3 à 6 ou à 7, je ne sais plus. Ensuite, la période s'ouvre, la période de la préadolescence et de l'adolescence. Et enfin, l'entrée dans l'âge adulte, où les dés sont jetés en quelque sorte. Quels sont les enjeux pour chaque âge?
Écoutez, les choses sont assez différentes selon les modes d'utilisation. Il est sûr que pour l'enfant de tout petit, c'est l'initiation à l'interaction avec quelque chose de numérique qui a la particularité d'être en quelque sorte précis, rigoureux et fixant l'enfant sur quelque chose de très très précis et circonscrit. Alors que d'autres formes de culture, si vous regardez la télévision par exemple, c'est quelque chose qui est un peu... Je ne sais jamais d'ailleurs, je me suis souvent posé la question de savoir ce qu'un enfant pouvait, très jeune, tirer de la vision d'un film parfois un peu compliqué, au point qu'on se demande, je me demande souvent ce qu'il peut comprendre. Mais ils adorent ça. On les voit, ils sont absolument fascinés devant la grande télévision. Donc, ils trouvent quelque chose et on n'arrive pas toujours à bien comprendre ce qu'ils y trouvent. Bon, dans les tablettes, cet élément d'interaction, de savoir où appuyer, comment, ce qu'ils comprennent d'ailleurs très vite, c'est assez extraordinaire, bon, est intéressant de ce point de vue-là. Alors, après, il y a les jeux. Il faut dire quelques mots sur les jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, bon, dans notre esprit, c'est quand même quelque chose qui est sans doute... qui ne sont pas la meilleure partie de cette interaction avec les écrans. Les jeux vidéo, c'est ça les côtés positifs. Et nous avons reçu d'ailleurs des fabricants de jeux vidéo, des gens qui, des concepteurs de jeux vidéo dans notre travail. Le côté positif, c'est que ça donne aux enfants, ça leur apprend une certaine capacité de réaction rapide à des différentes situations. Ça leur donne également une capacité de passer rapidement d'un sujet à l'autre. C'est donc une sorte de zapping intellectuel qui peut avoir de graves inconvénients, mais qui est également une forme de souplesse d'esprit qui est utile et qui peut se cultiver. Les inconvénients, on les connaît. Les inconvénients, c'est d'abord le temps démesuré que passent beaucoup d'enfants devant ces jeux. Le côté un peu compulsif, obsessionnel, oui, qui peut... Ouais, alors, nous avons été questionnés sur le côté addictif. Je sais que le terme d'addiction est un terme qui est largement utilisé aujourd'hui dans le public et qui, théoriquement, me dit-on, moi, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, mais nous en avons à l'Académie de grands spécialistes du sujet, à la fois des pharmacologues et des psychiatres. Donc, on en a beaucoup parlé. L'addiction, normalement, c'est quelque chose qui... se définit par les modalités du syndrome de manque. Et c'est quand on soustrait l'objet d'addiction qu'on observe donc des conséquences variables. Et suivant la modalité que prennent ces conséquences, on définit l'addiction ou pas. Et normalement, l'addiction, les jeux vidéo ou de façon générale les écrans n'en font pas partie. Les addictions.
Au sens strict, ce n'est pas une addiction.
C'est pas une addiction au sens strict. Bon, enfin, ça revient. Il y a une dépendance, mais une des conséquences que ce soit pas une addiction, si vous supprimez les jeux à un enfant, il n'est pas content, il va se plaindre. Bon, enfin,
c'est surmontable, ça.
On a l'habitude. C'est surmontable. Ils ne s'en portent pas plus mal, ils sont furieux, mais ils vont pas. Bon, il n'y aura pas de conséquences médicales, physiques.
Ils n'ont pas pris de convulsions.
Non, il n'y aura pas de syndrome, de manque, comme on a après chez les gens qui ont une addiction, vous avez de l'alcool, de la drogue, du tabac, tout ce que vous voulez.
Donc un peu d'autorité devrait suffire.
Alors voilà, alors ça pose la question de l'autorité. Et c'est une question qu'on a beaucoup développée. Une autorité trop rigide n'est pas apparue comme une solution idéale. Néanmoins, c'est un conseil que nous avons donné, et avec prudence, parce que nous ne possédons pas la vérité infuse, mais il est vrai que les parents doivent surveiller de façon très précise l'utilisation des écrans par leurs enfants. On parlait de jeux vidéo, c'est un élément, mais plus généralement, regarder combien d'heures ils y passent et accompagner les enfants et essayer, sans être trop intrusif dans la vie de leurs enfants, savoir ce qu'ils en font. Je pense que ça se pose particulièrement pour les réseaux sociaux. Laisser les enfants complètement libres de leur utilisation d'Internet et des réseaux sociaux est probablement inapproprié. Alors, comment surveiller ? Beaucoup de parents, à juste titre, veulent laisser la liberté nécessaire à leurs enfants.
Oui, enfin, eux-mêmes ne les laisseraient pas courir les rues totalement librement. Hein.
Voilà. Mais sur ce sujet, il y a parfois un certain laxisme. Et je pense personnellement qu'il est important que les parents contrôlent le nombre d'heures que les enfants passent devant l'Internet, dans toutes ses formes. Je pense aux réseaux sociaux et d'autres choses. Et ils regardent également ce qui se passe. Moi, j'ai vu des situations où des parents suivaient indirectement au sein de famille, mais pas les parents de leurs propres enfants, ce qui se passait chez les enfants d'autres familles, des cousins, etc. Et qui étaient finalement plus au courant de ce qui se passait chez les cousins que chez leurs propres enfants. Et finalement, arriver à retrouver des informations de façon croisée, comme ça. Ça, c'est ennuyeux, parce qu'il faudrait que les parents puissent suivre. Alors, encore faut-il qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Parce que beaucoup de parents ne sont pas très au fait. Alors, de moins en moins, parce que les parents, maintenant, à tout âge, les parents de jeunes enfants sont au courant. Mais il faut qu'ils puissent être au courant de ce qu'ils font, être capables de l'être et le faire. Bon. Donc, il y a un contrôle qualitatif. Et puis, il faut qu'il y ait un contrôle quantitatif. Alors maintenant, est-ce que c'est toujours possible? Est-ce qu'un enfant qui a sa chambre à lui tout seul, alors que les parents, fatigués de leur journée, finalement, s'endorment alors que leurs enfants ne sont pas encore endormis et restent avec leurs écrans, leurs téléphones, tout ce que vous voulez, jusqu'à 2h du matin? C'est terrible. Alors, il y a des façons simples. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. On peut couper le Wi-Fi à une certaine heure. Je ne sais pas. On peut discuter. C'est une idée possible. Mais il y a un vrai problème là. Qui est celui du contrôle, et nous avons insisté là-dessus. Nous avons eu des personnes qui nous ont dit « Oui, votre rapport n'est pas assez négatif. » Bon, nous avons essayé de faire un rapport pondéré en essayant de faire la part des bonnes et des moins bonnes choses qu'il y avait dans l'utilisation des écrans. Et je vous l'ai dit, il y en a des bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Je vous dis, il y en a d'autres qu'on pourrait rajouter. Il y a la violence. C'est vrai qu'il y a des jeux vidéo qui incitent à la violence. Bon, maintenant, même la télévision, parfois on voit des reportages aux actualités télévisées. Vous savez, quand on regarde tout ce qui se passe dans certains pays à la télévision, ce n'est pas fait pour diminuer la violence de certains enfants.
Ce débat est-il tranché, d'ailleurs, sur l'impact des images violentes qu'on peut trouver sur les différents écrans?
Non, ben alors c'est un vrai débat, parce que c'est vrai qu'actuellement, il n'est pas facile de contrôler la nature des vidéos ou de ce qu'on peut trouver sur Internet. On peut le faire dans une certaine mesure, mais pas complètement. Alors, sans parler de tout ce qui est lié au djihadisme ou à d'autres sujets de ce type, qui est un problème encore plus compliqué, qui est pris avec tout le sérieux que vous savez par notre société actuelle et dans tous les pays. Donc, on ne peut pas complètement contrôler l'utilisation d'Internet par des enfants, et les parents ne peuvent pas le faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est accompagner le mieux possible, de façon la plus constructive possible, et surveiller l'élément quantitatif. À partir de ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire que tout est mal dans cette utilisation des écrans. Il y a beaucoup d'aspects positifs que je vous disais. Et il vaut mieux, quand quelque chose de toute façon existe et qu'on ne peut pas l'empêcher, il vaut mieux en gérer l'utilisation plutôt que de critiquer en bloc. Et de toute façon, le numérique est un instrument formidable pour l'instruction. Mais sans revenir à ce que disait M. Figuier-Cacrot, je pense que c'est pas seulement l'écran lui-même. Parce que, en fait, comme je le disais, je trouve ce point très important, l'écran n'est qu'un véhicule. Hein, quand on a un porte-plume plutôt qu'un clavier, c'est pas très différent. Quand on écrit avec un clavier ou écrit avec un porte-plume ou un stylo bille, si vous voulez. Sur le fond, c'est pas ça l'important.
Voilà, il fallait rajouter une paire de ciseaux.
Voilà.
On tombe sur les mêmes fonctionnalités.
Oui, mais l'important, c'est ce qu'il y a derrière. Alors, il est vrai que, c'est Picacote a sans doute raison, je suis d'accord, c'est qu'il y a des activités qui sont permises par les écrans et qui sont pas souhaitables, qui ne sont pas souhaitables. Et là, c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Mais il y a beaucoup d'autres choses où ça devient simplement un instrument. Et c'est vrai pour ce qui se passe dans les écoles.
Il y a toutefois un impact de l'outil. Hein, c'est-à-dire que vous le disiez en positif, ça permet, par exemple, de passer un sujet à l'autre plus rapidement. Je crois qu'une des critiques de Finkielkraut et de bien d'autres, d'ailleurs, quand on lit le désarroi de certains cadres ou patrons d'entreprise aujourd'hui face à cette fameuse génération dite Y qui est née avec ces outils-là, c'est que ce qu'ils ressentent, c'est une pression, mais d'ailleurs dans la société également, beaucoup plus forte de l'immédiateté, de la difficulté à se concentrer sur une tâche plus longtemps, de poursuivre des projets à long terme. Il y a un besoin de renouveler les émotions qui est peut-être dû à la nature de l'outil. Livre, on le commence, il faut le poursuivre jusqu'au bout.
Je suis entièrement d'accord avec cela. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, je pense que on parle de la lecture, mais la lecture, c'est une des... Bon, il n'y a pas que la lecture dans la culture. Vous savez, la culture, nous défendons beaucoup cette hypothèse, elle est faite de beaucoup de choses. Nous sommes là pour ça. Nous disons que la connaissance scientifique fait partie intégrante de la culture. Il n'y a pas que la littérature, il n'y a pas que l'histoire. Il y a beaucoup d'autres choses dans la culture que cela. Et pour les sciences, par exemple, prenons cela. Le numérique est un instrument extraordinaire pour enseigner les sciences. si vous montrez à des enfants, si on parle de l'astronomie par exemple, c'est un sujet qu'aiment bien les enfants, vous pouvez leur présenter l'astronomie avec le mouvement des planètes de façon extraordinaire avec l'informatique, ce que ne peut pas faire un livre. Donc il y a toute une série de choses. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a le fait, encore on revient à l'utilisation du temps et aux mauvaises habitudes. Beaucoup de parents sont exaspérés à juste titre et ne savent pas comment gérer l'utilisation quasi permanente et continue du téléphone ou du SMS. Quand on voit certains enfants qui envoient ou reçoivent plusieurs milliers de SMS par mois, et je peux vous dire que c'est vrai. C'est inquiétant. On se demande d'ailleurs ce qu'ils peuvent dire quand ils envoient 20 à 30 SMS par jour. On peut se poser le problème du contenu. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'ils font. Ils sont en permanence avec leur téléphone, accrochés devant leur téléphone. Et ça, c'est certainement regrettable parce qu'on voit beaucoup plus les côtés négatifs que les côtés positifs. Comment le gérer ? C'est une question de relation entre l'enfant et les parents, essentiellement. Bon, les éducateurs peuvent jouer un rôle dans d'autres domaines, mais là, c'est surtout les parents. Et les parents sont souvent un peu désarmés, ou même, je dirais même, il y a un certain désarroi. Ils ne savent plus comment gérer le problème, comment interdire, sans rentrer dans des conflits frontaux que les parents ont encore moins envie d'affronter que les enfants. Bon, les enfants, bon, ils font un peu le dos rond souvent, mais les parents, ça les ennuie énormément. Et c'est vrai que là, il faut une certaine autorité. Il n'est pas acceptable, lorsqu'il y a un repas de famille, et ce genre de choses existe heureusement encore beaucoup, que ce repas de famille soit interrompu en permanence par des coups de téléphone. C'est une chose qui est quand même... Alors que, bon, une fois ou deux, mais on en voit certains enfants dans des repas où ils sont en permanence avec leur écran devant eux. Ça, c'est terrible. Donc, il faut trouver une solution intermédiaire, une solution raisonnable et pouvoir laisser se développer des projets, effectivement, à long terme. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Je pense que cela est possible. Il y a une notion, d'ailleurs, qui est intéressante aussi, une chose qu'on n'a pas dite, c'est la différence entre le numérique et l'informatique, parce que nous insistons beaucoup là-dessus. D'ailleurs, même dans les actions actuelles qui concernent l'enseignement, la différence n'est pas toujours faite. Le numérique, ça revient à la différence entre l'instrument et ce qu'on en fait. Le numérique, c'est un instrument, vous voyez. Non, c'est pour il y a bien sûr des professionnels du numérique. Bon, il y a des sociétés entières qui travaillent sur le numérique en tant que tel. Mais pour le citoyen, les jeunes citoyens dont nous parlons, le numérique, ça va être l'instrument. L'informatique, ça ouvre à la façon d'aborder des problèmes, c'est plus intellectuel, c'est la façon d'aborder les problèmes, même la façon de réfléchir. Quand on réfléchit un problème avec une certaine pensée informatique, ce n'est pas la même chose que les autres formes de pensée qui étaient les seules accessibles il y a quelques dizaines d'années.
Est-ce qu'il y a une idée qui parcourt le rapport également, c'est qu'il faudrait former les nouvelles générations à la compréhension de ces outils. Un petit peu comme on pourrait le faire avec, je sais pas, un automobiliste, on lui expliquerait d'abord, avant qu'il prenne le volant, comment fonctionne un moteur, quelle est la mécanique, qu'est-ce que sont les pistons, l'alternateur. Est-ce que ce n'est pas une façon de se protéger aussi, de comprendre comment fonctionnent toutes ces techniques-là? Est-ce que ce n'est pas une façon de les mettre à distance qui permettrait d'en être moins l'objet et plus l'acteur?
Peut-être, oui, je pense que oui. Je pense que, bon, il y a une chose qui est... Je dirais plutôt que savoir comment cela fonctionne, ce qui est à la fois simple et assez compliqué quand même, parce que vous faire expliquer comment fonctionne un ordinateur, je peux vous dire, moi j'ai essayé à plusieurs reprises, moi qui n'ai pas cette formation, c'est pas absolument simple de comprendre comment vraiment fonctionne un ordinateur. Ou console de jeux vidéo, c'est un peu plus simple, sans doute. Mais ce qui est surtout vrai, c'est qu'il y a dans tout cela, au-delà de l'utilisation qu'on en fait, il y a quand même, des objets d'utilisation, il y a quand même le fait de savoir bien l'utiliser. Et de la même manière, il y a quand même parmi les éléments essentiels de l'éducation que l'on doit pouvoir... quand on veut faire profiter les enfants, le fait de pouvoir utiliser un ordinateur de façon moderne, rapide et sans problème est une des choses qui est tout à fait essentielle. Et ça, c'est le côté un peu immédiat de la chose. Et les enfants le font eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, comme disent certains de nos collègues informaticiens, l'enseignement de l'informatique initiale, c'est la seule discipline où souvent les enfants savent plus que les enseignants. Bon, c'est un peu sévère, mais c'est pas entièrement faux, parce qu'ils ont une telle agilité d'esprit qu'ils acquièrent, qu'ils s'approprient eux-mêmes l'utilisation de ces instruments beaucoup plus facilement que le font les adultes. Non, je pense que simplement, je reviens à ce que je disais, il faut distinguer l'utilisation, l'outil de ce qu'on en fait. Et c'est là où il faut une réflexion. Et je pense que la réflexion principale, ça sera sur la qualité de ce qu'on peut fournir aux enfants pour utiliser le numérique de la façon la plus utile qui soit. Il y a des domaines très divers. Prenez la photographie. Photographie, c'est une forme de culture intéressante. Alors, c'est pas seulement prendre les photos des camarades, mais ça va plus loin. La photo, c'est quelque chose d'intéressant qui ouvre les yeux sur beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le monde ou autour de soi. Bon, ben, la photographie, maintenant, ne se conçoit plus sans le numérique. On peut encore faire des photos argentiques. Enfin, je suis pas sûr qu'on trouve encore beaucoup d'appareils. En tout cas, ça coûte très cher, en plus. Beaucoup plus cher que les appareils numériques. Bon, ben, les photos... C'est un sujet en soi, vous voyez, où le numérique a apporté énormément et peut apporter beaucoup plus que ce qui est fait quotidiennement par beaucoup de gens. C'est un aspect, vous voyez, de la culture, un aspect bon, un peu ponctuel, mais qui est intéressant aussi. Et ça illustre bien ce que je vous disais, c'est la diversité des problèmes. Donc on ne peut pas globaliser, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas tout globaliser, ces différences suivant les instruments, ces différences suivant les âges, ces différences suivant l'environnement. Il est évident que suivant l'environnement culturel, les problèmes ne seront pas les mêmes. Et puis, il y a les problèmes d'interaction sociale qui sont des problèmes très, très sérieux. C'est vrai que, par exemple, beaucoup d'enfants, les adolescents surtout, perdent presque la notion d'amis. Quand j'entends un adolescent me dire « j'ai 450 amis », je lui dis « c'est pas possible, on peut pas avoir 450 amis, ce sont pas des vrais amis ». Donc il y a une certaine désinsertion sociale. Alors en fait, quand on va au fond des choses, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais un peu quand même, et un peu quand même, il y a des enfants qui sont perdus dans ces problèmes, ils ne savent plus très bien où s'arrête le lien proche et véritable avec justement un ami, avec comparé à ces réseaux où on ne sait plus très bien avec qui on parle.
Oui, c'est un des mots qui revient de façon centrale et récurrente, parce que de fait, peut-être que finalement, c'est ça le cœur du problème, ou en tout cas de la question, c'est le mot de virtuel.
Oui.
Alors, il se trouve que généralement, on l'accole au virtuel numérique. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'on le rappelle qu'en fait, le virtuel, il y a aussi un virtuel psychique, psychologique, qui préexistait, et que tout cela se rassemble, s'entrechoque ou s'entremêle pour donner quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous distinguer ces différentes formes de virtuel ?
Alors, le virtuel, il existe surtout pour... Bon, le virtuel, il existe partout. Actuellement, même, si vous réfléchissez actuellement, même sur le plan de l'argent, de gestion de l'argent. L'argent, il y a encore des billets et des pièces, mais l'argent, il est virtuel. Les gens ne voient plus l'argent passer, sauf ils en ont un petit peu quand même pour acheter leur baguette chez le boulanger. Mais sinon, bon, les gens utilisent leur carte de crédit, ils ont des comptes en banque, ils voient passer. C'est virtuel. Donc le virtuel, il existe à beaucoup de niveaux. Mais ça, c'est pas très grave, parce que, bon, certes, c'est du virtuel, mais en fait, les gens savent bien ce qu'ils ont dans leur compte en banque, savent bien ce qu'ils peuvent faire avec l'argent qu'ils ont, etc. Le virtuel, là où ça devient grave, à mon avis, le virtuel, c'est ce qu'on a dit dans nos écrits, c'est que pour les jeux vidéo, c'est plus grave parce que ça met les enfants dans un monde qui est complètement virtuel. Alors, c'est pas très grave quand ils se retrouvent champions de Formule 1 automobile. Bon, ils sont dans une situation de conduite d'une voiture qu'ils n'auront jamais, c'est pas très grave. Quand ils sont dans des jeux beaucoup plus construits et qui sont totalement surréalistes et très loin de la vie réelle, là, c'est ennuyeux parce que quand ils utilisent trop ces jeux, ils n'arrivent plus à un certain moment à faire la part, où ils passent du virtuel au réel de façon continue sans se rendre compte vraiment de ce passage. Et ça, c'est une vraie question qui peut se poser, en particulier pour les jeux vidéo. Bon, cela dit, vivre dans un monde réel, il y a beaucoup de livres où cela arrive. Hein, y a pas
on
que...
appelait, au 19e siècle, on appelait ça le bovarisme, si je ne me
oui,
trompe
oui,
pas.
Oui, bah, mais ça a toujours été comme ça. Et heureusement, c'est la partie de la fiction. La fiction, c'est merveilleux. Donc, il faut l'encourager. Mais là, ça va un peu loin avec les jeux vidéo. Et c'est vrai. Et après, surtout quand on y rajoute la dimension de la violence, qui est une dimension qui peut être terrible. Quand on voit ce qu'il y a dans certains jeux vidéo, c'est vrai que ça mériterait qu'on les regarde de plus près. Alors, il y a certains fabricants font une autocensure, mais ce n'est pas le cas de tous. Mais c'est pareil pour les vidéos qu'on voit sur Internet. Il y a des vidéos qui sont terribles sur Internet, et mais qu'on n'arrive pas facilement à contrôler. On pourrait presque le faire de façon plus aisée avec les jeux vidéo qui sont sur le marché, dont la vente pourrait être surveillée, que ce qui apparaît sur Internet. Oui. Les réseaux, c'est beaucoup plus difficile à identifier, et les enfants se passent les mots-clés pour retrouver ces vidéos, et ça, c'est difficile à vérifier. Hein, c'est beaucoup plus... Alors, certains sites peuvent être sous le contrôle parental, mais pas tous, parce que c'est assez subtil. Et ça, c'est un vrai problème. Mais c'est un problème qui dépasse, malheureusement, assez largement la discussion que nous avons sur ce qui est de bien ou de mal, et ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Parce que le problème n'est pas seulement dire ce qui est de bien et de mal, le problème est de savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et c'est peut-être plus important, parce que le bien et le mal, ce n'est pas nous qui le contrôlons. Ce que nous pouvons contrôler certaines choses, mais dans certaines limites.
À l'issue ou presque de notre conversation, ça me rappelle ce que me disait ma maman. Maman n'est pas de la même génération que moi, par définition.
Non.
Et ses propres parents, me disait-elle, étaient ulcérés parce que le soir, après l'extinction des feux, elle continuait à lire sous sa couette. Pire, elle lisait parfois des livres qui lui avaient été donnés par des camarades.
Oui.
Or, ses parents étaient assez... petit passé conservateur, on va dire, et voulait exercer un contrôle. Ils n'y sont jamais parvenus. L'histoire se répète un petit peu, non ? Les outils sont démultipliés, mais finalement, ce qui compte, c'est quoi ? C'est le lien de confiance, c'est d'accompagner, c'est de maintenir un état d'esprit critique, de dialogue, de réflexion sur les outils, sur les images, sur les livres qu'on peut trouver. Rien de bien neuf, peut-être finalement, non ?
Moi, j'aime assez cette comparaison, parce qu'elle est tout à fait exacte. Alors, c'est vrai que ça existait moins qu'aujourd'hui. Le problème, c'est que ce que vous citez, bon, c'est un côté touchant, et puis c'est très vrai. Mais maintenant, c'était quand même assez rare. Ça existait, mais ce n'était pas aussi fréquent que ça. En tout cas, c'était beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui avec les instruments informatiques. C'est vrai, mais en commençant par le téléphone, le téléphone portable. Oui, c'est pas technologiquement c'est remarquable, mais c'est quand même relativement simple comme par rapport à l'ordinateur ou par rapport aux tablettes. Mais c'est déjà une utilisation qui est totalement exagérée. Et cette notion qu'ont beaucoup d'enfants de devoir être en lien permanent avec tous leurs amis, tous leurs camarades, bon, et ce qui est au détriment de la vie personnelle, qui est très importante. Alors c'est vrai que les livres n'exposaient pas à ce genre de choses. C'est là où il y a une différence. Mais c'est vrai qu'il faut laisser la place à, disons, aux enfants, laisser la place aux enfants d'avoir une vie qu'ils ont choisie, qu'ils choisissent. Mais un enfant, c'est vrai pour certains adultes, mais en tout cas, un enfant n'est pas capable de faire, d'apprécier les mesures ou les limites à ne pas dépasser. Souvent, il demande indirectement, il ne le dira pas parfois. Parfois, ils le disent. On compte sur les parents pour, quelque part, mettre les limites. Ils le pensent, en tout cas, même s'ils ne le disent pas. Beaucoup d'enfants le pensent. Ils ne sont pas contents, ils râlent, ils les empêchent de faire certaines choses, mais ils l'acceptent souvent, sauf quand ça devient conflictuel. Et là, il faut trouver la mesure. Le problème, c'est que c'est vrai. Ça, c'est un risque, un inconvénient grave de cette émergence accrue des écrans, c'est que le nombre de situations ainsi créées augmente régulièrement et que ça rend les problèmes de plus en plus aigus. Mais je répète, et je conclurai là-dessus, parce que nous arrivons à la fin de cet entretien, il faut que les parents aient conscience de la nécessité, je répète, d'accompagner leurs enfants, de ne pas laisser seuls, et le jour venu, de leur mettre les limites que finalement ils vont accepter, en oubliant ceux qui vont faire ça en cachette le soir. Et donc, ça, imposer aux parents d'être constamment dans la chambre de leurs enfants pour veiller qu'ils dorment bien. Mais au-delà de ces situations particulières, il faut que les parents... Alors, c'est plus facile à faire chez les enfants relativement jeunes. Et on revient à la notion d'âge. Le contrôle en question est beaucoup plus facile à exercer jusqu'à 10 ou 12 ans. Chez l'adolescent, ça devient beaucoup plus difficile.
Et ça, si on ne l'a pas exercé avant, j'imagine.
Alors absolument, absolument. Le retour en arrière est très difficile. Ça, c'est vrai.
Peut-être d'ailleurs, finalement, la génération des parents d'aujourd'hui est-elle la plus démunie face à ce système ? Parce que finalement, les nouvelles générations, lorsqu'elles seront devenues elles-mêmes parents à leur tour, ce qui est souhaitable, auront une capacité à déceler les comportements à risque, à comprendre l'outil pour en avoir été eux-mêmes des utilisateurs. Nous sommes un peu pris au dépourvu parce qu'ils apprennent plus vite que nous. Les outils arrivent, ils sont neufs pour tout le monde. Alors peut-être que les technologies vont continuer à évoluer à une vitesse telle que le problème va se reposer de façon indéfinie. Mais le pari n'est-il pas qu'à l'avenir, finalement, au-delà des nouveaux outils, de nouveaux usages et un nouveau rapport à ces outils s'installent au sein de ces générations qui sont nées avec eux?
Alors ça, c'est une remarque intéressante, parce que c'est vrai qu'on va avoir maintenant arrivé des parents qui ont connu l'utilisation de ces instruments pendant leur propre vie d'enfant. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, ou pratiquement pas. Donc ça commence à arriver. Bon, ça commence à arriver des enfants, des parents. Enfin, ça commence tout juste, hein, tout juste. Des parents d'enfants de 10 ans qui eux-mêmes ont vécu toute cette expérience. On était au début. Alors, ça va arriver, et je pense que... Moi, j'ai quand même frappé, dans la majorité des cas, pas tous, malheureusement, mais enfin, la majorité des parents ont un grand sens de responsabilité vis-à-vis de leurs enfants, un énorme désir de donner une éducation solide à leurs enfants. Et donc, ils vont se trouver dans ce paradoxe, où ils auront été des adolescents indociles, et bon... qui ont exagéré dans l'utilisation de ces appareils, et puis vont se trouver, comme parents, avoir des jeunes enfants. Alors ça va être très intéressant. Et c'est vrai que c'est une réflexion, je trouve, tout à fait opportune, et qui va être extrêmement intéressante à suivre. On peut espérer, effectivement, que le fait d'avoir su, parce qu'ils le savent, ils l'entendent, parce que même si les parents sont pas toujours, n'arrivent pas toujours à contrôler les choses, leurs parents finissent par leur dire « mais il faut que tu ailles te coucher, etc. C'est pas possible, tu n'as pas fini ton travail, etc. » Donc ils entendent de façon répétée, même s'ils ne suivent pas ces demandes de leurs parents, ils savent que l'existence du problème, même s'ils ne respectent pas. Et le jour venu, ils vont effectivement se retrouver dans la situation inverse, connaissant encore mieux que leurs parents les problèmes qu'ils ont connus eux-mêmes il y a quelques années avant. Donc ça va être effectivement quelque chose d'intéressant. Alors on peut espérer, soyons optimistes, et terminons d'optimisme, on peut espérer que cela sera une façon en partie de sortir de ces problèmes, surtout si parallèlement on maintient... les objets, enfin les bases de la culture dont nous parlons de tout à l'heure, et qui peuvent s'amoindrir ou du moins perdre de leur efficacité, si vous voulez, ou de leur portée à cause du développement et du manque de temps qui reste pour ces objets culturels en raison d'utilisation un petit peu futile de ces instruments informatiques par beaucoup d'enfants.
Merci beaucoup. Pour conclure à notre tour, c'est quelque chose d'un peu anecdotique, mais important toutefois, et qui démontre bien qu'on peut trouver de merveilleuses choses sur la toile, sur Internet et grâce aux outils numériques. C'est une excellente idée de faire écouter Canal Academy et d'offrir un abonnement à Canal Academy aux enfants et aux jeunes enfants, car c'est là une bibliothèque audio d'une richesse incroyable, avec de nombreuses émissions qui peuvent également les passionner. Les retours que nous avons le démontrent, car oui, il y a des enfants qui écoutent Canal Academy qui nous disent que les émissions leur plaisent. Merci beaucoup Jean-François Bach, merci de votre fidélité à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.